avec Jeff Fortin et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
On en jase certains à Boulevard 102.1. Il est midi, une minute. C'est votre émission du midi, votre émission d'actualité, d'analyse de ce qui se passe autour de vous. En politique municipale, provinciale, fédérale, c'est l'émission On en jase, c'est notre mandat. On tente de le faire du mieux qu'on peut. Et quand on dit On en jase, on passe proche d'arriver en retard. Parce que pendant que Pascal CV courait sur les dernières nouvelles pour vous informer adéquatement, moi et Antonine Niaccarini, on avait un bon débat hors d'onde.
On s'ostinait.
On s'ostinait sur les mesures de Christine Fréchette concernant sa salle d'attente virtuelle. Moi, j'ai des bonnes sources qui m'ont dit qu'il y aurait de la télémédecine qui arriverait avec ça. Débat samedi. Avant de nous arriver avec des nouveautés, et là, moi et Antonine, on s'assinait là-dessus, c'est pas possible. On est à l'ère des fax encore. Puis là, faudrait inventer une patente. Puis les patentes qu'on invente, ça coûte des milliards de dollars. Ah, j'ai hâte qu'on en parle tout à l'heure en nombre. J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche, chers auditeurs et auditrices. Carl qui nous écrit « Bon midi avec un cœur, oh, on t'aime, Carl. » On aime ça faire de la radio pour vous. 418-971-1021. Vous avez le goût de nous envoyer de l'amour? Vous avez le goût d'interagir avec nous? Vous avez le goût de chialer? Hey, parlant de chialer, là, ça, c'est le fun. Ça se passe par médias. Karine Gagnon écrit une chronique. Une chronique où elle dit Bruno Marchand communique mal. Ce qu'on dit, on en jase depuis au moins 2 semaines. Et là, dans la même chronique, elle dit Stéphane Lafrance, il nous invente des histoires de rencontres annulées parce qu'il veut parler à du monde du tramway puis Bruno Marchand veut pas. Et là, Stéphane Lachance réplique à Karine Gagnon. Il a sûrement pas lu la première partie de la chronique de Karine Gagnon où il dit « Karine Gagnon est toujours sur mon dos ». Et là, Karine Gagnon répond « Stéphane Lachance a l'épiderme sensible ». Ben, on va avoir Karine Gagnon, non, d'amis de 50. J'aime ça parler de petites chicanes de même. Je sais qu'Anthony n'aime pas ça.
La chicane?
Ouais. Des débats d'idées.
Les débats d'idées, j'aime ça. Les chicanes stériles, un peu moins.
Ah! Mais tu piquant dans notre vie. Je suis excité. Bon show! Que William nous écrit. Ben bon show à toi aussi, mon William. Toi, Pascal, c'est vrai. Aimes-tu ça quand les politiciens et les chroniqueurs s'astinent de même?
Ben, ça démontre la différence entre être dans une boîte médiatique et être en politique. Je pense qu'il y a toujours un juste milieu là-dedans. Mais c'est sûr que, on est biaisé. Je suis biaisé dans mes analyses parce que moi, je commente l'actualité. J'ai pas les deux pieds dans une Assemblée nationale, par exemple. Faut tout le temps que je l'ai en tête. J'aime le débat d'idées. Mais je suis pas la personne qui s'insurge pour s'insurger, ça c'est sûr.
Ouais.
Mais je vais me questionner beaucoup sur la façon de faire les choses.
J'aime ça.
Tu sais, moi, je suis née dans une famille où tout se dit, ça dépend de la manière dont on le dit. Ça a
en
été
effet.
Le mantra. Et patience et douceur valent mieux que force et rage. Et là, je sais, j'ai des amis de famille qui écoutent en ce moment et qui disent hop là, ouais, ça, on l'entend.
Pas tout vrai.
Non, non, mais au contraire, on l'a entendu.
Ah,
là.
OK, OK.
Ouais, ouais.
OK. Parfait.
Mais c'est pas facile toujours.
Ben
ça,
non,
c'est sûr.
On en pète toutes des coches. On est tous comme ça. Que celui qui ne s'est jamais fâché tire la première pierre.
Il y a le dicton anglo aussi qui dit « Kill them with kindness » que j'adore.
Ouais, en effet.
Tu sais, la gentillesse, là, ça gagne toujours, peu importe.
Ouais.
Sais-tu déjà obstiné avec un patron puis s'est mis à crier puis tu l'as juste regardé puis tu as juste fait « Hey, sais-tu quoi? On reprend la conversation demain. »
Ou « Sais-tu quoi? » Bye.
Ouais, mais il y en a beaucoup qui disent que ce serait la chose à faire. Ouais, pour le respect. Tu mérites le respect que tu aussi décides d'instaurer face à toi là.
Ouais.
Ça va toi. Mais là, si tu me parles aux affaires sociologiques, des réflexions psychologiques, on a pour 3 heures, c'est pas ça le show là.
Non, pas ça du tout. Hein,
on
en
a un gros show aujourd'hui.
Yes, très gros show. Pascal CV qui s'est entretenu avec Daniel Fortin. Ça, c'est un père qui a perdu son enfant ou ses enfants dans l'accident qui impliquait Éric Légaré, le chauffeur.
Ben, vous le connaissez sans le connaître peut-être. Daniel Fortin, effectivement, père de Jackson Fortin. Je veux le nommer. Je veux toujours nommer les victimes d'accidents comme ceux-ci. Hein. Une des 4 victimes de la collision mortelle de 2021 à Beauport, le chauffeur. 2021, pensez-y, là. Ça semble être hier. Ça fait quand même quelques années. Donc, c'était à Beauport, le chauffeur Éric Légaré qui a refait l'actualité encore une fois hier. On a appris qu'il, une fois par mois, aura le droit à faire une sortie de 72 heures environ, sans surveillance, pour aller voir sa famille, pour entretenir les liens familiaux. Bon, il voulait entretenir des liens avec une femme de Laval aussi. Ça lui a été refusé. On ne sait pas trop c'est qui pour toi, puis de toute manière, on ne s'aventure pas là. Mais Dans ce système de droit et de justice qui veut toujours réintégrer les criminels dans la société, hein, on ne veut pas faire en sorte qu'ils soient exclus, on veut une réhabilitation sociale aussi de ces gens-là. Il faut penser aux victimes, il faut aller voir qu'est-ce qu'ils en pensent. On a assurément en tête le fait qu'ils sont un peu biaisés émotivement, sont choqués, ils sont là-dedans, ils baignent là-dedans. Mais grosse discussion que j'ai eue avec M. Fortin. Parce que dis-toi qu'il y a des parcelles de territoire de la ville de Québec où il ne pourra pas aller, Éric Légaré. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un risque qu'ils se croisent, ces deux hommes-là. Mm-hmm. Après seulement 4 ans en prison...
Sur 15 ans de prison.
Sur 15 ans de prison, il a le droit à ces sorties-là. Pâques s'en vient. Il n'y aura pas son petit gars, lui, M. Fortin, à ses côtés. Oui. Monsieur Légaré va pouvoir aller fêter Pâques avec sa famille. C'est toutes des choses dans lesquelles ça peut quand même venir entrechoquer nos émotions.
On se fait ça tantôt aux alentours de 12h40 avec un immense plaisir. Mais en attendant, si je te demandais 3 grosses nouvelles dans l'actualité avant le caucus, quelles sont-elles?
Dans les dernières heures, ce qu'on a appris, c'est que Roson a réglé à l'amiable son processus judiciaire en attendant la décision de la juge là, qui doit se prononcer sur la responsabilité civile de Gilbert Roson. Je vous rappelle qu'il est accusé d'agression sexuelle et de viol par 9 femmes. Il y a de son côté retiré sa poursuite en diffamation contre Julie Snyder et Penelope McQuaid. Une entente à l'amiable qui aurait été signée entre les trois parties au cours des derniers jours. C'est la presse qui nous révélait ça dans les dernières heures. Le procès devait commencer le 22 avril. Roson n'a pas souhaité commenter. Il a affirmé qu'il y a un communiqué qui serait publié bientôt. Ça a été ses premières paroles. Il avait déposé 450 000 $ contre les animatrices Julie Snyder et Penelope McQuaid. Il y a aussi quelques minutes, Julie Snyder a utilisé ses réseaux sociaux pour expliquer un peu sa version des faits. Alors, on en reparlera un peu plus tard, assurément. Le Canada qui a atteint pour la première fois depuis près de 40 ans, soit 1987, la cible du 2 % de PIB en dépenses militaires exigées par l'OTAN. Une hausse assez rapide des investissements en défense. Là. C'est rare qu'on ait vu ça dans les dernières années. On en jasait un peu. L'aspirante première ministre du Québec, Christine Fréchette, propose la création d'un système de salles d'attente virtuelles dans les urgences de la province. C'est un communiqué qui nous a expliqué le tout. On dit qu'à l'approche de leur tour, les patients devraient recevoir un appel, un texto pour leur demander de se présenter de nouveau au centre hospitalier où ils se sont initialement présentés. Je sais qu'on parle de ça avec Antonine dans quelques instants. Et le chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec, Stéphane Lachance, rencontrait les médias hier. Lui exige des réponses concrètes avec les documents officiels de l'administration Marchand en lien avec le tramway. Alors, il veut pas juste des travaux avec des promesses verbales, il veut des papiers déposés sur la table.
Le caucus. Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonine Iaccarini du lundi au jeudi de midi à 12h30. Anto, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Good. Ça va-tu mieux que Michael Rousseau?
Je sais pas comment il va, notre Michael, parce que...
Il s'en fout, finalement.
Ben, c'est ça, j'allais dire. Moi, d'après moi, il dort très bien la nuit. Ouais. Il doit s'éponger ses larmes avec ses 12 millions de salaire par année. Voilà.
C'est clair, tout va bien dans la vie de Michael Rousseau, même s'il ne parle pas un mot français. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Bon, motion déposée à l'Assemblée nationale. Le PQ avait dit, on va-tu dire oui, on va-tu dire non, parce que nous, c'est l'indépendance ou rien.
Ben oui.
Finalement, ils ont dit « Attends, là, t'as fait un petit « ben oui » là, tanné. Vas-y donc, explique-moi
ben non,
ça. »
C'est parce que moi, j'ai un problème avec les mots tadines de motion à l'Assemblée nationale. Okay. Je suis pas fan. Tantôt, tu disais « t'es pas fan de la chicane ». Moi, j'aime ça quand c'est constructif. Puis les motions sans préavis là, à l'Assemblée nationale, ouais. Comment ça fonctionne? C'est que tu peux réserver un sujet. Mettons, toi, t'es leader d'un des partis politiques qui a représenté à l'Assemblée. Là, tu dis « je réserve une motion sur Michael Rousseau ».
OK.
Puis là, le matin, tu vas envoyer un libellé, qu'on appelle. Ça, c'est le texte de la motion. Puis là, ça dit que l'Assemblée nationale condamne les propos et déplore telle affaire. Puis gna, gna, gna. Puis là, tu écris ton texte, puis là, tu envoies ça aux autres partis. Puis les autres partis peuvent de proposer des amendements. Donc, cette phrase-là, on n'est pas à l'aise, c'est là, nanana. Et toi, instigateur de la motion, tu peux refuser les amendements ou les accepter. Puis là, c'est toute une petite gamique politique parce que ces motions-là servent surtout à mettre tes adversaires politiques mal à l'aise.
Ben oui, c'est clair.
Fait que là, mettons que tu mets un amendement, ben, je vais le refuser parce que je veux que tu votes contre ma motion puis que je dise, voyez, il est contre la langue française parce qu'il est contre ma motion. Puis là, ça fait... Moi, là, je trouve... Pour vrai, si un jour je suis chef de parti, je vous le dis tout de suite, là, je vais m'abstenir sur toutes les motadines de motion qui sont pas entendues d'avance. C'est pas compliqué.
Ouais.
On peut-tu en parler
intelligemment? C'est là qu'on regarde la clip.
La clip?
C'est un jour tu es chef de parti.
Tu veux-tu
être chef de parti?
Vous pouvez, puis peut-être que ce sera pas possible de le faire, mais moi, je trouve qu'il y a certains sujets, surtout quand on envoie des messages à l'international, là, on ne devrait pas faire des motions sans préavis, c'est mon opinion. Donc, de là, mon roulement dû, je n'ai pas l'intention de faire mon plaidoyer anti-motion, mais tu as vu ma face.
Ben c'est ça, c'est pour ça que je t'ai fait réagir, tout simplement, c'est mon travail. Bon, Michael Rousseau, après 3 jours, il s'est excusé en français. Je suis profondément, mais en français par écrit, là, on s'entend.
Ben il est bon en français par écrit, hein?
Je suis profondément attristé. Je vais prendre un accent anglais, voir. Que mon incapacité à m'exprimer en français ait dévié l'attention du profond deuil des familles, bon, et de la grande résilience
au Canada.
Oublie ça,
il serait
jamais
capable de dire le mot deuil, là.
Non, exactement. Un auditeur nous écrivait « Ouais, après 300 heures de cours de français, je le trouve pas chant crime. Comment il fait pour gérer Air Canada? »
C'est honnêtement...
C'est de la frime, ça, le 300 heures.
Si c'est vrai, je m'inquiète des capacités de M. Rousseau. Je
veux dire, c'est clair.
Moi, là, si tu me donnes 20 minutes, je pense que je suis capable de donner des condoléances de base dans pas mal de langues, OK? Il y a pas toutes, là. Mm-hmm. Il y en a qui sont plus compliquées que d'autres. Donc, c'est vraiment extrêmement dur à comprendre. Moi, mon hypothèse, c'est que M. Rousseau a la même prof de français que la gouverneure générale.
Oui, ça c'est clair.
Il devrait la congédier. Donc, il est profondément attristé, on le croit, hein, quand il
ben
dit
oui.
ça, là, je le crois, c'est terrible.
C'est clair.
Le problème avec M. Rousseau, c'est que moi je trouve que c'est une controverse qui a pris énormément de place cette semaine. C'est dommage que ce soit devenu l'histoire principale parce que j'aurais préféré qu'on puisse rendre hommage à ses pilotes, qu'on ait davantage d'espace mental pour penser aux passagers et à l'équipage.
C'est exactement ce qu'un auditeur écrit. Ça a pris toute la place. Ça n'aurait pas dû
dommage.
Prendre toute la place. Ce qui aurait dû prendre toute la place, c'est les blessés, les familles endeuillées, l'accident. Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter que ça arrive? Peut-être pas le français de Michael Rousseau.
C'est dommage. C'est sûr qu'on peut le reprocher aux Québécois puis dire c'est comme faire une crise du bacon dans une funéraille. Je comprends, OK? Mais le problème, c'est que M. Rousseau est à la tête, oui, d'une entreprise privée, mais d'une entreprise qui est soumise à la loi sur les langues officielles, qui a des responsabilités en la matière. Et surtout, c'est l'effet cumulatif, parce que Michael Rousseau, en 2021, quand il a fait sa conférence « In English Only » à la Chambre de commerce de Montréal, et qu'après, il est sorti devant les médias pour dire qu'il ne voyait pas c'était quoi l'enjeu, et que lui, ça fait des années qu'il vit à Montréal, puis qu'il n'a jamais appris le français, alors qu'on sait que le français est en déclin, alors qu'on sait que c'est un défi incroyable, surtout à Montréal.
Oui.
Une conférence en anglais à Montréal, on est dans un défi incroyable de préserver le français là, à Montréal en ce moment. Mais sa nonchalance et son désintérêt avaient choqué. Et à la suite d'une crise terrible, elle avait fini par nous dire « Bien, OK, je m'excuse et je vais apprendre le français. » Alors, 5 ans plus tard...
En plein ça. Moi, c'est cette promesse rompue-là. C'est ça que je mets à l'avant-plan, c'est la promesse rompue. Puis c'est pour ça que j'en ai contre Michael Rousseau. J'en ai pas contre le fait qu'il parle pas français. J'en ai contre le fait qu'il a dit « Je vais apprendre le français parce que je suis le PDG d'Air Canada », qui nous fait croire qu'il a fait 300 heures puis que, dans les faits, il est pas encore en français. Puis il y a un auditeur qui écrit « Voyons, si tu parles pas français, t'es incompétent, ça fait donc bien dur ce que vous êtes. » C'est pas ça qu'on dit.
Oh,
on
non.
dit juste que si, après 300 heures, t'as pas appris le français, t'as-tu vraiment une compétence de diriger une compagnie comme Air Canada?
Oui, puis ce qu'on dit, là, pour répondre à l'auditeur, c'est que c'est pas vrai là, qu'il a fait 300 heures. Là. Je m'excuse, là, mais tu serais capable de dire sincère
ben
condoléances
ben
aux
oui,
familles.
Voyons donc.
Je veux dire, c'est pas...
Ou tu serais capable de lire sur un télé souffleur, là, c'est sûr. Là.
Exactement.
Hey,
donc,
explique-nous
c'est
donc la différence entre Air Canada, qui est, autrement dit, une société d'État versus une compagnie privée. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui nous posent cette question-là par texto.
En fait, ce n'est plus une société d'État depuis maintenant plusieurs décennies. Ça a été privatisé, je pense, dans les années 80, si je ne m'abuse. Par contre, étant une ancienne société de la Couronne, il y a une responsabilité en matière de langue. Donc, on demande à Air Canada de donner les services dans les deux langues, de communiquer dans les deux langues. Est-ce que ça veut dire que le PDG doit être bilingue? Là, on n'est jamais allé jusque-là. Donc, il y a une espèce de flou. Sauf que quand Michael Rousseau, le PDG, envoie un message sur les médias sociaux, donc fait de la communication publique cette semaine en anglais seulement, bien, il contrevient, effectivement, aux attentes. Il faut dire aussi qu'il y a quelques années, on a ajouté des exigences, en fait, dans son évaluation de performance. Il y a une partie de sa rémunération qui est liée à la connaissance du français. Ça a été ajouté.
Oui.
D'après moi, il laisse un peu d'argent sur la table, mais comme je disais un petit peu plus tôt, il n'est pas trop à plaindre.
Non, à 12 élevé. Millions.
Mais c'est ses compétences qui sont les plus importantes. On veut quelqu'un qui gère bien Air Canada.
Oui.
Et si M. Rousseau n'était pas capable de faire une conférence en français, honnêtement, je pense que tout le monde peut vivre avec ça.
Mm-hmm.
C'est vraiment le fait qu'il a l'air de s'en balancer complètement, qui vient, je pense, gratter un petit bobo, là, historique, là,
en effet.
Des Québécois qui ne se sentent pas respectés. Puis j'ai envie de dire les francophones, pas juste les Québécois, hein, ça va bien au-delà du Québec. C'est les francophones à travers le Canada qui se font dire « Hey, on est dans un pays bilingue, mais quand vient le temps d'être bilingue, c'est drôle, ça marche juste dans une direction. »
Excellente chronique de Thomas Mulcair, justement, dans le Journal de Québec, là-dessus, puis il explique que lui... Il y a justement des amis dans des universités anglophones parce qu'il enseigne qui se forcent à apprendre le français puis qu'eux autres disent non, Kim, ça se peut pas, là, 300 heures.
Ça
là,
se
là.
Peut pas.
Et là, m'a pris 50 heures puis je suis capable de faire des phrases en français puis je suis capable de dialoguer. Moi, là, j'ai fait ça, là, mettons, 60-70 heures de cours de perfectionnement en anglais. Je vais être capable de dialoguer. Je vais pas capable de donner une conférence de 2 heures, mais je vais être capable de dialoguer.
On a toutes des capacités différentes d'apprendre des langues. Là. On s'entend, là. Il y en a que c'est plus difficile que d'autres. Puis j'imagine que quand tu es un petit peu plus âgé, ça doit être un petit peu plus difficile que quand tu es plus jeune.
Ben oui.
Maintenant, tu sais, si toi, demain matin, tu devenais PDG d'une compagnie au Japon, on s'entend-tu que tu... c'est sûr que tu ferais tes meetings en anglais, tu enverrais tes courriels en
mais
anglais.
Mais par respect, je reprendrais du japonais.
Mais mettons que tu as 2 employés japonais qui sont décédés, là, d'après moi, tu serais capable de dire quelques mots en japonais, surtout avec un télésouffleur.
C'est clair.
Il y a une petite chose sur laquelle je ne comprends pas, mettons, les porte-paroles et tout ça. On voulait réagir rapidement et autres, mais tout le monde a déjà fait un exposé oral. Puis je pense qu'en politique ou dans une entreprise, des fois, tu as à prendre la parole, puis c'est préécrit ce que tu as à dire.
Ben oui.
Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, dans les communications, préécrit un petit passage en français sans qu'il soit super bon, qu'il l'ait appris par cœur, puis qu'il ait fait un clin d'œil justement aux gens francophones, aux pilotes québécois. Ou... Il y a vraiment là, dans l'opération, je pense, de gestion de crise-ish, là, manqué.
Bien, en fait,
un point important. On ne serait même pas dans le débat. Personne n'aurait observé qu'il n'avait pas encore appris le français et autres.
Bon, peut-être quelques personnes l'auraient observé, mais ça n'aurait pas pris l'ampleur que ça a pris. Mais la réponse à ta question, c'est que ce n'est pas une préoccupation. Tu sais, moi, j'ai déjà travaillé dans une multinationale où, à un moment donné, ça sort de nulle part, il y avait un nouveau slogan qui avait été choisi. Puis là, il était en anglais. Puis là, ça s'en va au com. Ça dit, ben là, vous trouviez l'équivalent en français. Ça se traduisait pas.
Mm-hmm.
Tu sais, il y a des affaires qui se traduisent pas en français. Mais quand les gens pensent en anglais puis que le français, c'est juste une traduction dans leur tête, ben ça donne des mauvais résultats. Puis d'ailleurs, il faut quand même saluer l'hypocrisie du gouvernement Carney qui, on s'entend, on n'a pas tout le temps des bonnes notes en la matière puis qu'il n'y a personne qui écrit des discours en français dans l'entourage de M. Carney qui déchire maintenant sa chemise. Moi, je dois vous dire aussi que cette affaire-là va avoir fait ressortir le pire, je trouve, de notre relation avec le reste du Canada parce que eux, j'ai vu beaucoup de commentaires sur les médias sociaux, j'ai reçu des messages, dont des messages plutôt haineux. Et eux, là, dans leur tête, là, c'est, les Québécois sont complètement inappropriés en ce moment, font une petite crise. Là, c'est, comme je vous dis, là, c'est comme si on faisait une crise de bacon au salon funéraire dans leur tête. Là. Et de notre côté, nous, on dit, ben voyons donc, il y a un des pilotes qui est Québécois, c'est la base. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de se faire respecter?
Vraiment?
Je te dirais que je pense que Michael Rousseau n'est pas très bon pour l'unité canadienne parce que ça crée vraiment division.
Vraiment, ça a créé une scission entre les deux. Avant de passer à quelques commentaires, parce que vous êtes beaucoup à réagir, Anto, faut que je te lance les fleurs qui sont envoyées par texto. Enfin, Antonine, une des femmes plus intelligentes que j'entends parler et une des plus belles femmes au monde. Boulevard entre les mains, un lingot d'or.
Ben voyons donc.
Fait que là, je viens de mettre ça dans ton sac à dos pour la journée.
Est-ce que c'est signé Dominique V? Parce que si oui, c'est
non,
mon chum.
Non, c'est pas
ça compte
signé
encore.
Dominique V, mais
jamais.
Si la personne veut bien s'identifier, le prendre. Steve qui mentionne, à l'inverse, est-ce que tous les PDG québécois parlent anglais et font l'effort? Pas ça. Ben moi, je pense que oui, parce que c'est pas mal la langue universelle.
En fait, puis il y a beaucoup aussi de PDG anglophones qui sont basés au Québec et qui parlent un très bon français. Il faut le souligner, ça se fait. Il y en
exactement.
A, je pense notamment au PDG du groupe Dynamite, M. Lotfi, pardon, qui parle un excellent français, même s'il y a un accent anglais. On s'en fout des accents anglais. C'est pas la perfection qui est demandée, c'est juste le respect de base. Et juste aussi pour ajouter là-dessus, le Québec, il n'y a pas 2 langues officielles au Québec. Alors, la langue du travail, c'est vraiment le français. Et pourtant, on est presque tous bilingues au Québec. Et vous le savez, là, quand on fait un meeting avec des gens, s'il y a juste un anglophone dans la pièce, bien, tous les francophones vont parler anglais. Fait honnêtement, je pense qu'on n'a pas à être gêné puis à se faire traiter de personnes repliées sur nous-mêmes. On parle davantage d'autres langues que les anglais.
D'accord à 100 %. Quelqu'un qui écrit, Antonine, tu vas à Montréal combien de fois, combien de restos, de dépanneurs, de boutiques, tu peux même pas te faire comprendre. C'est un excellent point.
Bref.
Puis d'ailleurs, je te fais entendre Soraya Martinez-Ferrada, la mairesse de Montréal qui a réagi sur les ondes de Mario Dumont à LCN par rapport à cette polémique-là entourant Michael Rousseau, mais surtout le fait que Michael Rousseau il se pète les bretelles en disant « Fait 17 ans, je vais à Montréal, puis j'ai pas besoin de parler français. »
Ce manque de respect, total envers la communauté francophone, envers Montréal, qui est la ville francophone la plus importante en Amérique du Nord. Et ce que j'ai dit hier, c'est tu as perdu la confiance de la communauté francophone. La légitimité que tu as de représenter non seulement la communauté anglophone, mais francophone, est importante. Puis tu as perdu cette confiance. Une fois que tu as perdu la confiance, qu'est-ce qui te reste?
Je pense que ça résume très bien.
Absolument. Puis honnêtement, il ne faut pas être gêné d'avoir certaines exigences. C'est drôle parce que, Jeff, ce matin, j'ai reçu une demande d'entrevue de la BBC.
Oui.
Et j'avais pas le temps de la faire, mais je me disais, comment je vais expliquer à des Britanniques qu'est-ce qui se passe? Puis je pense que c'est exactement ça. C'est qu'on est une nation de francophones qui essaie de garder sa langue et sa culture.
En effet.
Entourée d'un océan d'anglophones et dans un monde global où l'anglais prend énormément
on se bat,
de place.
Ben, on se bat depuis qu'on a pris un café sur les plaines d'Abraham.
Oui, ben là, ça, non, mais ça, c'est un appli-chat de bledin. En tout cas, ça, c'est une autre histoire.
OK, c'est beau.
J'aimerais sentir chez nos amis anglophones un intérêt.
Oui.
Juste un intérêt pour comprendre que c'est un défi très grand de préserver notre langue et que ce n'est pas pour exclure les autres. C'est simplement, pouvez-vous avoir l'air juste un peu intéressé? C'est ce que j'appelle le anglo-privilege, en fait. C'est de ne même pas voir la problématique.
Mm-hmm.
Et c'est ça qui finit, je trouve, par venir chercher les Québécois. C'est, mes amis anglophones nous disaient « Vous avez raison, puis je vais vous aider à préserver le français », parce que c'est ça aussi qui rend notre pays unique et la ville de Montréal unique. Je pense que ça calmerait beaucoup le jeu.
Ah, je suis tellement d'accord avec toi, Antonine. Merci beaucoup pour ce bon commentaire. Vous êtes dans le caucus avec Antonine Iaccarini. C'est de midi à midi 30, du lundi au jeudi. Bon, place au débat, Anto. Faut qu'on parle des salles d'attente virtuelles de Christine Fréchette.
Ouais.
Elle a promis de faire ceci si elle est élue première ministre. Et là, tu me corriges, je ne l'explique pas comme il faut. Mais dans le fond, tu arrives à l'urgence, tu t'en vas au triage et dis « Hey, sais-tu quoi? » Toi, là, tu viens de te casser le coude, mais on va te passer dans 5 heures. Fait que retourne à la maison, te mettre de la glace, mange un petit lunch, poup, je te texte quand c'est le temps, tu reviens à l'hôpital, puis là, tu vas être justement prise en charge. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée parce que Caroline Debine, là, tant qu'à traîner parmi les microbes à l'urgence, sac donc ton camp chez vous, puis tu reviendras quand tu veux. Mais tu n'étais pas de mon accord, explique-moi pourquoi.
Bien, en fait, je suis pas en accord. Là, je vais commencer déjà à nuancer, puis tu vas être déçu, puisqu'on ne se chicanera pas.
Je suis pas déçu du tout, si tu nuances.
En principe, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve qu'il y a beaucoup d'effets pervers à une telle proposition. Et mon deuxième problème, c'est que je pense que c'est inapplicable. Je pense pas qu'on est capable de déployer ça en ce moment. Donc, sur l'effet pervers, j'ai peur que, premièrement, on se mette à concentrer nos énergies sur calmer un symptôme, qui est que les urgences débordent, plutôt que de mettre nos énergies à régler le problème. Au Québec, notre réflexe, c'est d'aller à l'hôpital parce qu'on a un mauvais accès à la première ligne. Quand on dit la première ligne, là, c'est « je veux voir un médecin de famille ou une infirmière ou un autre professionnel de la santé parce que j'ai un problème de santé qui est non urgent, mais qui n'est pas urgent, qui doit être réglé dans les 15 prochaines minutes, là, mais que ça, c'est quand même urgent, puis il faut que je trouve une solution. Et on se retrouve à l'urgence parce qu'on n'a pas d'autres solutions. Et ça fait des années qu'on en parle, il y a eu toutes sortes de réformes de la santé. Là, en ce moment, il y a une vaste initiative pour inscrire davantage de gens dans les GMF. Il y a quand même pas mal de Québécois qui vont avoir un médecin.
Bien, vraiment, juste en capitale nationale, c'est au-dessus de 60 000 personnes là, qui ont 60 000 patients vulnérables qui sont pris en charge. Là. Pascal Renaud, le président de la Fédération des médecins et praticiens de Québec, nous l'a confirmé.
Mais on sait, puis Santé Québec nous le répète régulièrement quand ils font leur mise à jour sur les urgences, les cas qui se retrouvent à l'urgence, ce n'est pas des cas qui devraient être à l'urgence en principe. Maintenant, ils sont là, ils existent, les urgences débordent, et attendre 8 heures à l'urgence avec un bébé qui pleure dans les microbes, ça n'a aucun sens.
C'est
donc, je suis sensible à ça, puis tu sais, on l'a tous vécu. On l'a tous vécu, puis c'est vrai que rentrer à la maison puis de se faire dire, écoute, on va t'envoyer un texto pour te dire qu'à revenir, ça a l'air d'une bonne idée. Mais j'ai l'impression que ça enlève nos yeux du véritable problème. Et aussi, dans l'inapplicabilité, c'est que je vois, c'est qu'on va te dire, ben tu peux revenir, puis tu vas arriver. Mais s'il y a 2 ambulances qui arrivent, c'est fini, là, tu vas réattendre.
Non, je sais. Ça, c'est un bon point que tu amènes, honnêtement. On en parlait tantôt hors d'onde, j'adore ce point-là. Moi, je le vois comme une première marche vers la télémédecine. Tu penses quoi de la télémédecine? Moi, j'en ai bénéficié
pour ça.
En ayant des assurances privées pour d'autres entreprises
ben
que
oui.
J'ai travaillées. C'est justement, le bonheur total.
Élargissons l'accès à télémédecine. OK, parce que c'est quoi les cas les plus qui vont faire en sorte que tu vas attendre le plus longtemps dans une salle d'urgence? OK. Par exemple, une infection que tu dois régler, genre infection oui. urinaire, là, les filles savent de quoi il est question ici. Si tu laisses ça aller, c'est une infection de la vessie, des reins, ça peut être très, très en grave. Effet. Mais en même temps, tu sais, pendant que tu l'as, ton infection urinaire, tu n'es pas en souffrance, ça rentre sur une civière non plus. Puis là, quelqu'un qui n'a pas de médecin de famille va appeler, va essayer d'avoir une plage de rendez-vous, pas de rendez-vous. Et là, les jours passent, mais tu peux pas passer deux semaines de même. Là.
Non, exactement.
Là, ils finissent par se rendre à l'urgence.
Même principe pour tout ce qui était un petit peu plus élevé. Là. Streptocoque, laryngite, bronchite,
pneumonie, otite. T'as ton enfant qui fait de la fièvre très forte depuis un nombre d'heures. Puis là, tu sais, il est écrit qu'il faut que tu vois un médecin. C'est à partir de... Fait que là, tu passes des heures avec ton bébé qui braille dans la salle d'urgence. Fait que moi, je pense que déjà, si jamais ce projet pilote devait avoir lieu, je pense qu'on devrait d'abord prioriser les jeunes enfants vraiment, parce que on ne peut pas dire aux parents, ben venez pas à l'urgence. Moi, j'ai toujours eu peur, force de lancer ce message-là, de se dire qu'on on va en perdre un bébé, là, parce que ça peut arriver une méningite. On a vu cette semaine, il y a eu un cas vraiment
très triste. À Gatineau, là, très triste. Là, asthme très sévère, une petite fille de 4 ans qui est décédée. Il y a une enquête du coroner qui a été lancée. Donc, c'est pour ça que je pense qu'en tant que parent, tu n'as pas le choix. Il faut que tu te rendes à l'hôpital.
Puis il ne faut pas trop niaiser avec ça. C'est sûr que ça serait mieux s'il y avait un médecin ou de la télémédecine.
Ouais, j'aime que tu parles de projet pilote avec les jeunes enfants. Ça m'allume, honnêtement.
Bon, regarde, tu vois, c'est déjà entendu. Pas moyen de se chicaner ici.
C'est vrai, on ne chicane pas, moi, puis toi. C'est plate, c'est
plate. Puis l'autre élément, Jeff,
on va laisser Karine Gagnon chicaner que Stéphane Lachance.
Ben oui, là, ça, on a déjà une chicane aujourd'hui, c'est assez.
Ah, OK.
Puis l'autre élément, c'est vraiment sur l'applicabilité, parce que je t'avoue que ma foi de déployer des programmes et des projets de type technologique dans notre système de santé, je me dis, on est mieux de choisir nos combats. Ouais. On n'a pas encore réussi à sortir le fax. Là, j'imagine. Moi, ce que j'ai peur aussi, c'est qu'en essayant d'instaurer un nouveau système dans les urgences, là, ça soit encore plus long dans les urgences, parce qu'ils sont déjà tellement débordés, le personnel des urgences.
Que là, le temps de faire l'affaire.
Puis c'est comme, non, mais là, attends, faut que tu utilises mon nouveau système, madame l'infirmière, puis,
Moi, c'est un bon point. C'est un bon point que j'avais pas vu.
Je suis un peu cynique.
C'est pour ça que moi, je me lance plus vers la télémédecine. Puis là, on a des bons textos qui sont rentrés justement là-dessus, en disant qu'il y a déjà, justement, des télémédecines qui existent. Puis on pourrait commencer avec un projet pilote avec eux, parce qu'on s'entend, ces télémédecines-là ne seraient pas capables de recevoir tout le monde.
Exact, mais ça devrait pas être en rapport avec l'urgence, c'est juste ça. Moi, dans ma tête, t'as pas allé t'enregistrer à l'urgence. Tu passes par le numéro de téléphone, là, c'est le 811.
Ouais.
Puis on dit, ben là, je vois pas de plage de rendez-vous. Par contre, on pourrait vous faire faire, vous pourrez vous mettre en file d'attente pour de la télémédecine. Pourquoi mêler l'urgence à ça?
J'aime ça, ton idée. Ouais, tu m'as convaincu.
Arrêtez d'envoyer le monde à l'urgence, maudit.
Non, tu m'as convaincu, j'aime ça. Tu deviendras chef de parti politique, là, comme t'as dit tantôt.
Puis il n'y aura pas de motion, puis il n'y aura pas d'urgence, OK?
Ouais. Je te fais entendre la publicité de Simon Jolin Barrette qui s'attaque au stratagème de fraude.
Des vedettes québécoises se retrouvent bien malgré elles dans de fausses publicités.
On met dans le coin le logo d'un média, dans l'autre coin la photo d'une personnalité.
Ici, c'est pas Marie-Pierre Morin, c'est Émilie Bégin, Gino Chouinard, Guilla Lepage.
Et c'est une arnaque pour aller vous soutirer de l'argent.
Bon an, mal an, des milliers d'internautes se laissent tenter. Cliquent sur ces publicités.
Ils volent l'image de personnalités connues, adulées du public québécois afin de vendre des produits qui ont toutes les chances de ne pas fonctionner du tout.
Ça fait des différents... Ça fait un peu différent d'être utilisé pour se faire avoir et frauder que d'être sur des sites de rencontres, par exemple.
Oui, exactement. Ben là, dans le fond, c'est la publicité. Il écrit à la fin, les stratagèmes de fraudeurs ne cessent de changer. Les lois doivent aussi évoluer. Là, on a le petit logo, votre gouvernement.
Ouais.
Simon Jolin Barrette, là, pourquoi il s'est pas présenté à chefferie de la CAQ? Il me semble qu'il est toujours sa coche à chaque fois qu'il fait une intervention. Je l'aime donc bien, lui.
Moi, je pense qu'il a l'impression que le prochain chef de la CAQ, ça va être un chef de transition. Puis il veut se garder en réserve de la République pour un meilleur contexte.
Parce qu'on fait juste regarder cette semaine. Hey, on va augmenter, on va durcir le P38. Comme ça, les gens qui sont en crise de santé mentale, on va les forcer à être hospitalisés. Là, aujourd'hui, les fraudeurs qui utilisent les artistes, puis là, on a eu plein de cas dans les médias. Là,
puis là, c'est pour ça que j'ajoutais les sites de rencontres. Ça a mal sorti tantôt parce que j'étais dans une autre nouvelle, là, mais c'est aussi les sites de rencontres. Faites attention de ne pas vous faire avoir, parce que là, on parle de ces plateformes-là Et celles-là ne sont pas abordées dans le projet.
Non, en effet. Tu sais, notamment le pauvre petit monsieur qui pensait qu'il parlait à Laura Fabien, là, puis qui finalement il parlait pas à Laura Fabien.
La madame qui envoyait de l'argent à Brad Pitt aussi.
Ouais,
ben
exactement.
Oui, pauvre Brad Pitt.
Pauvre madame, pauvre Brad Pitt, pauvre tout le monde là-dedans.
Bang, frappe encore un coup de circuit avec ça. La loi de la laïcité présentement est à la Cour suprême. C'est lui qui a amené ça. Let's go, close des regards.
Très politique.
Il est donc ben bon.
Oui, vraiment. Et toujours à l'avant de la parade de M. Simon-Jolin Barrette, oui, ministre de la Justice. Il faut dire aussi qu'il a le dossier de la protection du consommateur. Et ça, c'est un dossier. Parce que la justice, des fois, ça peut sembler un peu d'un nuage, un peu loin du monde. Mais la protection du consommateur, c'est très proche du monde portefeuille.
Vraiment?
Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il s'est attaqué aussi cette année au coût des billets. Tu sais, les
c'est vrai, les revendeurs.
Il s'est attaqué l'année passée.
L'Ontario est en train de le copier, d'ailleurs.
Absolument. Il s'est attaqué l'année passée aussi à la question de la sextorsion des sextos. C'est vraiment...
Il a remis 4 millions là-dedans cette semaine.
Un ministre très actif, très proactif et très prolifique. C'est ce qu'on appelle un réformateur, honnêtement. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un ministre de la Justice aussi prolifique au Québec.
Il a fait des belles choses tout au long des dernières années. Je pense qu'en tout cas, il a été proactif, effectivement, mais encore plus cette année. Ça coïncide avec le départ de M. Legault. Y a-t-il quelque chose à faire comme corrélation là-dedans? Est-ce qu'il y avait un peu plus de liberté cette année vu que M. Legault quittait?
En fait, c'est que moi, je le trouve pas plus actif cette année. C'est juste qu'il fait plus de choses différentes. C'est que pendant longtemps, il a travaillé sur son projet de loi sur la langue. Et ça, là, il faisait moins plein de choses en même temps parce que ça a été toute une opération politique dans cette affaire-là. Puis quand Simon-Jolin Barrette fait un projet, il prépare le terrain avant. Bon, pour la Constitution, le préparage de terrain, la préparation de terrain était un petit peu moins peut-être
ouais,
au
ça,
rendez-vous.
Je vais lancer une pierre dans l'ac de François Legault, son premier ministre, qui a sorti ça en pompe dans un discours. Puis il a comme fait « Ouais, OK, pas le choix, on y va ».
Bien, puis je pense que le ministre poussait depuis longtemps pour son projet de constitution, puis le cabinet du premier ministre n'était pas convaincu que ça touchait vraiment le monde, puis là, ouais, c'est arrivé bien, bien tard dans le mandat. Bon, cela étant dit, pour Simon-Jolin Barrette, il faut dire que là, il y a un projet de loi qui a été déposé ce matin. J'ai bien hâte de voir comment ça va fonctionner parce qu'il y a une des problématiques, c'est les plateformes numériques. Mm-hmm. Parce qu'on signale, toi, par exemple, tu ferais l'objet d'une publicité, puis là, tu vendrais des suppléments de protéines pour avoir, ouais, des gros muscles.
Bien, bien, parce que tout le monde sait que j'ai des gros bras.
Exact. Fait que là, t'entends Jeff.
Au gym, moi, là.
Il y a des fakes de Jeff avec ses gros muscles qui vend les suppléments. Là, le monde tombe dans le panneau.
C'est
là,
ça.
Toi, tu vois ça. Il y a quelqu'un qui dit tu vends des suppléments, mon Jeff. Je vends pas des suppléments partout. Fait que là, tu veux signaler ça.
Et non, parce que je leur dis, moi, c'est naturel. Pas
oui,
besoin de suppléments.
Non,
pourquoi je vendrais ça?
Ben, c'est ça. Fait que là, tu voudrais faire une plainte, tu signalerais la publicité, tu essaierais de parler à quelqu'un chez Meta ou chez X. Hey, ils s'en foutent, là. Comme de l'an 40. Eux, ils vendent des pubs. Puis les pubs frauduleuses, là, je te dirais que ça ne les empêche pas de dormir la nuit. Fait que j'ai hâte de voir pour le projet de loi, on va donner certains leviers, notamment aux policiers, parce qu'avant, tu disais, bon, OK, je vais aller voir la police. Puis la police disait, oui, mais c'est pas vraiment interdit. Tu sais, il n'y a pas de loi là-dessus. Donc, ça va changer quelque chose. Mais dans la mise en application, j'ai hâte de voir, ça va vraiment changer quelque chose. Et en terminant, il faut dire aussi que les projets de loi qui sont déposés présentement risquent de mourir tous au feuilleton, étant donné qu'avec l'arrivée d'un nouveau chef, d'un nouveau premier ministre, ouais, le 12 avril...
Mais ils avancent tellement bien ces dossiers que ça me surprendrait que ça meure tant que ça.
Ben, ils vont les redéposer. Mais il va falloir voir aussi c'est quoi les priorités du nouveau chef ou de la nouvelle chef. Moi, je pense que ça, c'est un bon projet de loi qui risque d'être priorisé. La Constitution?
Non.
Pas sûr.
Moi non plus. Mais bref, mon étoile la semaine en politique à Simon-Jolin Barrette. Antonine Iaccarini, c'est toujours un grand bonheur de t'avoir avec nous du lundi au jeudi, de midi à 12h30. Je te souhaite un bon week-end, une bonne présence sur les ondes de RDI demain, 14h. Et on se parle, nous, lundi.
À lundi.
Salut, à lundi. Après la pause, Pascal CV nous a préparé un excellent dossier avec un père endeuillé qui voit un chauffeur puni de 15 ans de prison, pouvoir avoir des droits de sortie avant même sa quatrième année complétée derrière les barreaux. Ça ne fait aucun sens. Et Karine Gagnon vient s'asseoir avec nous en studio. On va parler entre autres de financement de tramway, de façon très bizarre de communiquer du maire Marchand et de son équipe, et du chef de l'opposition, Stéphane Lachance, qui tourne les coins ronds pas à peu près. C'est tout ça qui vous attend dans quelques instants à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.